Question par votre réponse que je suis parmi des chrétiens, parce que c'est vrai ce que vous dites, shalom veut dire paix, mais entre juifs, on dit shalom pour dire simplement bonjour et aussi au revoir. Et un jour, un monsieur est allé voir son rabbin et a posé la question, pourquoi ce même mot, shalom, pour dire et bonjour et au revoir? Et le rabbin a gratté sa barbe. Il a répondu, sans doute parce que nous, les Juifs, on ne sait jamais si on va ou on vient. Alors, Pascal a donné un peu mon parcours. Parents nés à Vienne, grandi en Angleterre. J'ajoute, je travaille pour une mission qui a son siège aux États-Unis. La plus grande partie du travail est en Israël. Nos quatre enfants sont nés en France. J'ai un frère qui habite au Luxembourg, une sœur à Londres, une sœur à Jérusalem. Et moi, je suis le seul juif messianique et nous habitons, comme l'a dit Pascal, en Suisse depuis bientôt 10 ans. J'étais avant d'être missionnaire, comme mon père me l'a dit, j'avais un bon travail pour un garçon juif. J'étais expert comptable, mais ça fait maintenant 30 ans que je suis missionnaire avec la mission juif pour Jésus. Alors, shalom, vous connaissez le mot. Une autre expression pour cette époque de l'année en hébreu, Shana Tova. Bonne année. Alors, répétez, Shana Tova. Parce que selon la tradition juive, on vient de célébrer le nouvel an selon le calendrier biblique, un calendrier lunaire. Et je pourrais aussi ajouter pour ce soir, Chag Sameach. Chag Sameach, qui veut dire joyeuse fête. Et en fait, ce soir, c'est le début de la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Et peut-être j'aurais dû proposer de vous parler sur les fêtes et surtout les fêtes, la fête de tabernacle, de Soukhot, qui commence ce soir. Et en fait, Déborah et moi, on va célébrer cela avec d'autres amis chrétiens ce soir. Mais le thème que j'avais à cœur d'aborder aujourd'hui a comme titre le rôle du chrétien à l'égard d'Israël. Et je dois dire, pour beaucoup de Juifs, ils ne comprennent pas ce que veut dire chrétien. Moi-même, quand j'étais à l'université, j'étais athée. Et j'ai rencontré un ami qui m'a dit, je suis chrétien depuis un an. Et moi, j'ai répondu, et moi, je suis juif depuis ma naissance. Alors, qu'est-ce que tu étais pendant 18 ans? Et puis, il a dit, il a avoué qu'il était de souche protestante, chrétienne, mais il a seulement rencontré le Seigneur à l'âge de 19 ans. Et j'ai appris par lui qu'on peut être né juif ou né suisse, mais on est chrétien uniquement si on est né de nouveau. Et mon peuple, le peuple juif, a besoin de comprendre ce que c'est l'évangile. Alors déjà, les juifs ont du mal à comprendre ce que c'est vraiment être chrétien. Mais je dirais aussi que dans le monde chrétien, on a un peu de mal à comprendre ce que c'est le juif. Le rôle du chrétien vis-à-vis d'Israël. Bibliquement, Israël, c'est avant tout le peuple juif. C'est un peuple descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est un peuple qui aujourd'hui vit en partie dans la terre d'Israël, mais en grande partie, plus grande partie, dans la diaspora, y compris New York, Londres, Moscou et Genève. Alors, notre mission, c'est très simple, c'est de œuvrer ensemble avec nos frères et sœurs en Christ pour annoncer au peuple juif, au peuple d'Israël, que le Messie, c'est Jésus. Alors, nous allons parcourir des diapos. On va voir si. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, pas du pape, mais du mot pape, et ce mot pape, un acrostiche, acronyme qui a quatre lettres, PAPE, le rôle du chrétien à l'égard d'Israël, prier. Deuxièmement, aimer. Troisièmement, parler. Et quatrièmement, ayez de l'espoir, de l'espérance, espérer. Et je vais parler sur ces quatre points, quatre sujets pour parler du rôle du chrétien vis-à-vis d'Israël. Et c'est un message très simple parce qu'en fait, c'est le rôle de chacun de nous envers chacun de nous. Chacun de nous envers l'autre, c'est de prier pour l'autre, aimer l'autre, parler de Jésus à l'autre et avoir l'espérance que Dieu est un Dieu avec un avenir glorieux pour chacun de nous. Alors, prier, le premier texte que j'aimerais partager, c'est Romains chapitre 10, verset 1. Frères, dit l'apôtre Paul en s'adressant aux chrétiens à Rome, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul s'adresse à qui ? Il s'adresse à des chrétiens à Rome qui sont largement d'origine païenne. Ce ne sont pas des juifs messianiques, des juifs pour Jésus, mais avant tout et surtout des païens convertis. Et lui qui est l'apôtre aux gentils, il dit à ces gentils chrétiens, voyez, les juifs chrétiens ne sont pas gentils, mais par la grâce de Dieu, il peut faire des miracles en nous. Mais l'apôtre Paul dit ceci, frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et ils, c'est le peuple juif, c'est Israël. Lui, l'apôtre aux gentils, dit que le vœu de son cœur, comme s'il n'avait pas d'autre vœu, ma prière à Dieu pour eux, comme s'il n'avait pas d'autre prière, c'est qu'ils soient sauvés. Il n'y a pas de plus importante chose dans la vie pour que chaque personne rencontre le Seigneur. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 4, au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné, aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On remarque l'urgence dans le message de Pierre et rappelons-nous que Pierre est un juif qui s'adresse à une foule à Jérusalem, qui est une foule de juifs. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. L'urgence, l'importance de Pierre en s'adressant à son frère juif en disant « c'est uniquement par Jésus qu'il y a le salut ». Et pour eux, c'était une évidence que ce Jésus était venu pour son peuple Israël. Et ainsi, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens à Rome que le vœu de son cœur et sa prière pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Souvent, dans les églises, ceux qui aiment Israël prient une très bonne prière. Et c'est une prière d'un psaume prié pour la paix de Jérusalem. Mais il n'y aura pas de paix à Jérusalem ni à Genève sans que le prince de paix règne dans le cœur des hommes. Rappelons-nous ce texte en Ésaïe chapitre 9, où le prophète, parlant par la bouche de l'Éternel, annonce la venue du Messie. Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. La paix véritable et durable demeure dans la personne de Jésus. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, « Je ne vous donne la paix pas comme le monde le donne. » pas une paix politique, ma paix, je vous le donne. Une paix relationnelle, spirituelle, avec le Dieu Tout-Puissant. En fait, ce petit verset d'Ésaïe figurait sur une carte de Noël que ma femme Déborah a reçue il y a plus de 30 ans d'une amie chrétienne. Elle, qui est juive, a reçu, avant qu'elle ait venu au Seigneur, cette carte de Noël avec ce texte d'Ésaïe. Elle a lu « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Elle s'est dit « Mais Ésaïe, c'est un prophète juif, c'est un des nôtres. Et cet enfant nous est donné, donné à Israël. Et donné pour apporter quoi ?» Eh bien, elle a lu que le nom sera admirable, conseiller, Dieu puissant, un enfant qui sera Dieu puissant. Et ajouter « Père éternel, prince de paix ». Et comme, j'allais dire beaucoup de juifs, mais beaucoup de tout le monde, on cherche la paix. On veut une paix politique, mais avant tout, on cherche la paix en nous-mêmes. Et on ne peut pas avoir de paix dans le monde sans que nous soyons en paix avec le Seigneur et chacun de nous. Le chemin, la prière par excellence entre les Juifs, ce qu'a répété Jésus, « Aimez Dieu de tout votre cœur, âme et force, aimez votre prochain comme vous-même. » J'étais à Londres cette semaine et avec un de mes collègues, un autre juif messianique, on a visité un juif qui n'est pas croyant en Jésus. Il a, j'allais dire, 93 ans, 93 ans maintenant que je suis en Suisse. Il est né comme mes parents à Vienne. C'est un homme bon. Il croit dans les valeurs bibliques. Il a dit le plus important, c'est d'aimer son prochain. Et j'ai dit, mais le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de toute sa force, toute son âme, toute son intelligence. Et c'est lui la source d'amour. Et avec tout son cœur, l'apôtre Paul aimait son peuple. Alors d'abord, il priait pour leur salut. Et deuxièmement, il aimait ce peuple. Et ce texte est un texte qui ne parle pas d'amour, mais qui montre l'amour que l'apôtre Paul a pour son peuple. Il parle encore à ses chrétiens à Rome, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Messie, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Mais il dit au verset 2, « J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même, verset 3, être anathème, séparé de Christ pour mes frères. » Et je dis, Seigneur, moi qui suis missionnaire à plein temps, moi qui suis soutenu par des amis chrétiens pour annoncer l'évangile, Seigneur, donne-moi ce cœur qui est un cœur qui éprouve de la tristesse pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que notre fardeau soit pour le salut des autres. Et quand l'apôtre Paul dit « Je serai prêt à être anathème pour mes frères », qu'est-ce qu'il veut dire être anathème? Vous savez, il y a une injure en anglais qui est plus répandu que l'équivalent en français, c'est « go to hell ».« Go to hell ». Comment est-ce qu'on le dirait en français ?« Va au diable ». L'apôtre Paul est en train de dire qu'il serait prêt à être dans le demeure du diable, à l'écart de Dieu, séparé de Dieu pour l'éternité, si cela pourrait amener ses frères juifs au Seigneur et au salut. Il les aime à tel point qu'il serait prêt à donner sa vie pour eux. Quand Jésus a dit « Un nouveau commandement, je vous donne », quel était ce nouveau commandement? Et je dirais, ce n'était pas « Aimez-vous les uns les autres », car la Torah enseigne déjà et répétait déjà à l'époque dans la synagogue, tous les jours comme aujourd'hui, « Aimez votre prochain comme vous-même ». Mais le nouveau commandement, c'était l'explication de comment on devait aimer les uns les autres. Comme je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Et comment est-ce que Jésus nous a aimés? Eh bien, il nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et voilà aussi Moïse, quand dans Exode chapitre 32, qui retourne vers l'Éternel après avoir reçu les tables de la loi et dit « Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. » Moïse est descendu de la montagne, il a vu son frère, son grand frère Aaron, en train d'idolâtrer avec le peuple les veaux, un veau d'or. Et ce qu'il dit à Dieu, « Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et il parle de quel livre? Il parle du livre de vie. Et c'est uniquement Jésus, on lit dans Apocalypse chapitre 5, qui a le pouvoir de sceller nos noms dans le livre de vie. Alors certains d'entre vous connaissent l'expression qu'on dit entre juifs au Nouvel An, Shana Tova, qui veut dire bonne année. Et parmi les juifs un peu plus pratiquants, on ajoute un souhait. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et c'est un souhait qu'on exprime pendant cette période de l'année, et puis qui est répété chaque année. Bonne année et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais en le répétant chaque année, ça veut dire quelque part que dans le judaïsme, on n'est pas certain de cette vie éternelle, que notre vie est inscrite dans le livre de vie. Un jour, un rabbin m'est venu et m'a demandé très gentiment, sincèrement, qu'est-ce que vous avez avec Jésus que nous n'avons pas dans le judaïsme? Et j'ai répondu, l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance en Jésus qu'il a vaincu la mort et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Avec ce vieux monsieur juif, Karl, de 93 ans, qui a l'âge que mon père aurait eu s'il était toujours en vie, cet homme bien né à Vienne avant-guerre, qui a échappé à la Shoah comme mon père l'a fait, eh bien, il essaye de ne pas penser de l'éternité, la vie après la mort, la vie éternelle. Alors, j'ai partagé simplement avec lui les paroles de Jésus. Je suis venu apporter la vie et la vie éternelle. Une chose qui est évidente pour l'apôtre Paul, mais qui parfois a été perdue dans la pensée de l'Église, c'est que Dieu aime toujours Israël. Son amour pour Israël n'est pas un amour éphémère, mais un amour éternel. Et au chapitre 11, Paul pose une question aux chrétiens à Rome. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pourquoi poserait-il la question si ce n'est que les chrétiens à Rome déjà se demandaient si Dieu avait rejeté son peuple? Et lui qui aimait poser les questions pour donner les réponses lui-même, il donne la réponse. Loin de là, car moi aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et pourtant, dans la pensée et l'enseignement et la transmission de l'enseignement de l'Église à travers les siècles, on a enseigné un mépris contre les Juifs comme si c'était un peuple rejeté. Je ne sais pas si vous connaissez ces images. Ces statues figurent sur une cathédrale. Est-ce que quelqu'un sait Strasbourg? Qui a dit Strasbourg? Voilà, Strasbourg. Et sur le mur de la cathédrale de Strasbourg, c'est deux symboles. Une femme avec couronne, la tête levée, avec une croix, calice, cette coupe de victoire. Et puis, à côté, une femme, les yeux bandés, la tête baissée. À la main, il y a une table de loi, la Torah, qui est en train de glisser de sa main. L'Église victorieuse, la synagogue déchue, perdue, aveugle. Et cette attitude a, perduré à travers les années dans l'Église à l'égard des Juifs. Aujourd'hui, un carnaval qui figure parmi le patrimoine de l'UNESCO à Alst en Belgique, et c'était cette année où les Juifs sont crimés, sont montrés comme des Juifs avec le nez crochu. On voit pas dans l'image, mais ils sont assis sur des sacs d'argent, d'or, et de leur sexe sort des rats. Et le maire d'Alst a dit, c'est pour rigoler. Vous voyez? Mais ça fait penser à Das Stürmer, qui était le magazine des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et toujours cette attitude. Alors, pour les Juifs, souvent, de rencontrer des chrétiens qui leur montrent l'hospitalité, l'amour, la gentillesse, l'amitié, c'est quelque chose qui surprend. Déborah et moi, nous avons animé une soirée chez nous il y a un mois. C'était une soirée de musique juive. On a invité une trentaine d'amis juifs et chrétiens. Finalement, on était plus de 40 parce que nos amis juifs ont invité d'autres amis juifs. Et on avait deux duos musicaux. Un couple et deux personnes qui jouaient et chantaient de la musique juive. Et ces quatre personnes étaient chrétiennes. Et ces personnes chantaient et jouaient de la musique juive pour un public juif. Et bien sûr, après la musique, il y avait à manger. Il n'y a pas de fête juive sans qu'on mange. Parfois, on me demande, mais comment est-ce qu'il faut témoigner aux juifs? Je dis, mange avec eux. Vous avez peut-être entendu un dicton que je répète sans cesse, un dicton juif. L'amour est une bonne chose, mais l'amour avec les nouilles est meilleur. Et voilà, c'était étonnant pour ces juifs de rencontrer des chrétiens qui aiment Israël, aiment les juifs, aiment tout le monde finalement, mais qui leur parlent de l'amour du Seigneur et sont intéressés à eux, qui visitent Israël. Une des musiciennes qui était là, une violoniste extraordinaire, eh bien, elle parle hébreu, elle va en Israël, et elle fait partie d'un groupe de danse israélien. C'est comme cela que Déborah a rencontré cette dame chrétienne, un groupe d'une quinzaine de dames, dont deux chrétiennes, et ces 13 femmes juives sont interpellées par la foi de ces deux femmes chrétiennes. Et puis ma femme Déborah, juive et chrétienne. Troisième lettre, pape, c'est parler. Souvent on me demande pourquoi est-ce que les juifs ne croient pas en Jésus. Et je leur dis, est-ce que vous avez parlé avec un juif à propos de Jésus? Est-ce que vous avez annoncé l'évangile? Et déjà, l'apôtre Paul reprend l'Église à Rome il y a 2000 ans en leur disant « Mais comment voulez-vous que les Juifs croient en Jésus si on ne leur annonce pas l'Évangile ?» Il y a des chrétiens qui disent « Oui, mais ils ont la Torah. » Mais vous savez très bien, c'est pas en posant une Bible dans une chambre d'hôtel que tout le monde qui passe par cette chambre devient croyant en Jésus. Ce n'est pas parce que nos parents ont été chrétiens ou nos ancêtres que nous sommes chrétiens. Car Dieu n'a pas de petits-enfants, uniquement des enfants. Eh bien, les Juifs ont besoin d'entendre l'Évangile. Et l'apôtre Paul, quelque part, il reprend l'Église à Rome. Ici, au chapitre 10 de Romains, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Et Paul utilise un mot, c'est du grec, mais ça ne veut pas dire être devant une chair, pour prêcher, c'est simplement annoncer l'Évangile. Et c'est surtout à travers nos collègues, nos amitiés, nos rencontres que l'Évangile est partagé. Et le centre de l'évangélisation, parce qu'on parle souvent d'évangélisation, je travaille comme missionnaire évangéliste, eh bien je suis de plus en plus convaincu que le centre pour l'évangélisation, c'est la maison, c'est le foyer. C'est d'inviter des gens chez nous, chez soi, partager l'amour autour d'un repas, un café, s'intéresser à eux et parler de notre espoir en Jésus. Et voilà l'apôtre Paul qui dit simplement « Comment est-ce que vous voulez que les Juifs croient en Jésus s'ils ne connaissent pas l'Évangile ?» Moi, j'ai grandi en Angleterre dans une famille juive très, comme j'ai dit, Pascal a dit, athée, mais très séculier. J'ai grandi dans des écoles de souche protestante, anglicane, mais je n'ai pas entendu l'Évangile avant que je sois à l'université, une université laïque comme tous ici en Suisse, ou presque tous j'allais dire, ou en France ou en Angleterre, l'université laïque, mais la présence d'un chrétien qui m'explique l'Évangile de Jésus-Christ. Vous savez, dernièrement, notre mission en Israël a engagé un cabinet de sondage professionnel, laïque, pour sonder le public israélien sur leurs convictions et leurs connaissances religieuses. Et à travers une dizaine de questions, l'une des questions avait un rapport avec la mort de Jésus et sa résurrection. Et tous les Juifs interrogés savaient que Jésus était mort, mais uniquement 2% savaient que le cœur de l'Évangile, c'était la résurrection de Jésus. Et quelque part, ça transmet l'idée ou la conviction que les Juifs toujours ne connaissent pas l'Évangile. Ils savent qu'ils ont été accusés de la mort de Jésus, mais ils ne savent pas du tout que Dieu les aime à tel point qu'il a donné Jésus comme sacrifice pour leurs péchés afin que par sa résurrection, ils reçoivent le pardon et la vie nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que les Juifs ne connaissent pas, toujours pas. Et je dirais de plus en plus, nous qui habitons ici en Suisse, qui a une longue tradition chrétienne, eh bien, de moins en moins de jeunes connaissent l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça, vous le savez. Alors, c'est sous le thème de parler de l'Évangile. J'ai deux photos, c'est des vieilles images du même homme qui était un missionnaire. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? C'est James Hudson Taylor, comme on le dit en français. Levez la main si vous avez entendu parler de James Hudson Taylor. C'était un petit Anglais chétif qui est devenu missionnaire en Chine. Il a eu un impact extraordinaire dans la vie des Chinois. Il a, par son ministère et les Chinois qui sont venus au Seigneur, des milliers de Chinois sont venus au Seigneur. Et ce petit Anglais chétif qui a été refusé par les grandes missions de l'époque, il a dû être, il a été refusé pour devenir leur missionnaire. Il est parti seul avec le soutien de un petit groupe de prières, seul en Chine. Et voilà cet homme qui, chaque année, quand il était missionnaire en Chine, il envoyait un petit don à une mission parmi les Juifs à Londres avec le mot de l'apôtre Paul aux Juifs premièrement. Et il citait ce texte. Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et souvent dans les églises, on s'arrête là. Mais Paul dit du juif premièrement et aussi de l'Africain, du Suisse, du Français, de n'importe qui, des gentils, des nations. Et c'est toujours dans sa pensée, la pensée de Paul, une priorité pour la mission de l'Église. Et James Hudson Taylor, missionnaire parmi les Chinois, savait que son appel était envers les Chinois, mais que dans le cœur de Dieu, il était toujours primordial d'annoncer l'Évangile aux Juifs. Et le directeur de cette mission à Londres, quand il recevait le petit don avec le mot aux Juifs premièrement, il a envoyé un don de sa part à la mission de James Hudson Taylor avec un petit mot et aussi aux Chinois. James Hudson Taylor avait compris que le cœur de Dieu était toujours et encore pour le salut de son peuple Israël. Mais à moins qu'on prie pour leur salut, à moins qu'on les aime, à moins qu'on leur parle de l'évangile de Jésus-Christ, ils ne vont pas venir au Seigneur. Et le quatrième point, c'est espérer. Je dirais, et je ne veux pas le dire par arrogance, ça ne serait pas juste, mais le seul peuple dans la Bible auquel il est promis un avenir glorieux en Jésus-Christ, une conversion suprême et totale, ça semble être le peuple juif. Regardez ce texte, Romains chapitre 10, ou plutôt chapitre 11, à partir de verset 12. Si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Paul ne parle pas dans le présent, il parle d'un avenir. Il ajoute, « Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Dans le présent, il avait l'espoir que quelques Juifs viendront au Seigneur. Mais, il ajoute, verset 15, « Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ?» Il vivait la réalité du présent. À présent, on ne voit pas beaucoup de Juifs qui viennent au Seigneur. On pourrait dire on voit pas beaucoup d'Anglais ou de Suisses qui viennent au Seigneur. Mais Paul parle à ses chrétiens à Rome d'un avenir glorieux où ils se convertiront tous. Et ainsi, à la fin du chapitre, vers la fin, verset 26, Paul peut dire « Ainsi, toute Israël sera sauvé. » Ce n'est pas aujourd'hui, et je ne pense pas que ça serait demain, mais le Seigneur n'a pas rejeté son peuple Israël, et un jour il rétablira Israël dans la mission pour laquelle elle a été appelée dès le début pour être un peuple missionnaire pour le Seigneur. Rappelons-nous que quand Dieu a appelé le peuple d'Israël à travers Moïse, il a dit « Vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs ». c'est-à-dire de médiateur qui apporte la vérité de Dieu à l'humanité. Et nous qui sommes en Christ, juifs et gentils, notre mission, c'est d'annoncer qu'en Jésus, il y a réconciliation entre Dieu et les hommes. Quelques mots pour finir à propos de la mission, quelques nouvelles. J'aime dire que notre mission juive pour Jésus est la plus ancienne mission évangélique au monde. Et cette plaque en anglais dit établie l'année 32 à un ou deux ans près. Un petit rappel que la mission de l'Église a commencé à Jérusalem avec des Juifs il y a 2000 ans. Voilà deux Juifs messianiques. À la gauche, mon homologue à Londres que j'ai vu avant-hier, et à sa gauche, un Juif très orthodoxe qui est croyant en Jésus. Rappelons-nous au début, Actes chapitre 2, c'était des Juifs pieux qui se sont rassemblés à Jérusalem. C'était des Juifs pieux qui étaient parmi les 3000 hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Voilà des Juifs pieux qui sont en train de... Ils n'ont pas le droit de regarder l'Internet. Ils apprennent par ces affiches, ils sont en train de regarder une bande dessinée que nous avons produit en 10 épisodes sur la vie de Jésus, sans le dire ouvertement. Et en fait, après épisode 2, ça a été arraché et la communauté a été avertie qu'il y avait des missionnaires présents. Mais la majorité de Juifs en Israël, comme partout, ne sont pas des chassidim avec leurs chapeaux et leurs payos, c'est des jeunes comme certains d'entre vous ici, des jeunes aujourd'hui, qu'on ne va pas reconnaître. Voilà des jeunes Israéliens, juifs messianiques, qui préparent une mission en Inde, dans les Himalayas. Chaque année, ils y vont pendant un mois pour témoigner à des jeunes Israéliens qui, à la fin de leur service militaire, partent pour l'Inde pour découvrir la paix. Ils cherchent la paix, ils vont pour se défouler, se détendre, peut-être aussi d'autres choses pas si bien, mais voilà une équipe missionnaire qui part de Jérusalem dans les Himalayas pour toucher des Israéliens chaque année. On a récemment fait des expositions d'art. Il y a un des livres sur la table de librairie, c'est des tableaux de l'évangile de Matthieu avec l'écriture en hébreu pour expliquer aux Israéliens l'évangile de Matthieu. Et cette exposition qui a tourné partout en Israël a été annoncée à la télévision israélienne. Voilà un des tableaux avec des paroles de l'évangile de Matthieu. C'est notre centre à Tel Aviv, un des centres que nous avons. Il n'y a pas d'affiche juive pour Jésus, mais au sein du centre, beaucoup de jeunes, des soirées avec témoignages, musique, repas, pour annoncer l'évangile aux amis. Voilà un ami juif qui habite à Zurich, un prof d'université que j'ai rencontré par l'évangélisation dans la rue. Et Bernard, je le verrai jeudi prochain. Pour son business, il vient dans la région de temps en temps, toujours pas au Seigneur, prier pour son salut. Il est plutôt dans le Nouvel Âge, mais c'est un juif qui est fils de deux survivants d'Auschwitz. J'ai dit comment témoigner aux juifs, on mange ensemble. Voilà un petit cercle d'amis, d'hommes juifs et quelques... Le J c'est juif, le G c'est gentil. Et on a ce cercle tous les deux, trois semaines avec des hommes autour de la table pour toujours discuter sur la parole de Dieu, des hommes juifs qui découvrent l'évangile, les prophètes à travers la discussion. La prochaine réunion, c'est demain, 14h, prier pour quelques-uns de ces hommes qui ne sont pas au Seigneur. Pas uniquement des juifs, celui à droite, c'est un Belge de souche catholique qui a épousé une femme juive qui fait partie du groupe de danse de Déborah. Et lui, il vient chaque fois à cette réunion, mais il n'est pas encore converti. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? Oui, certains, oui. Alors, levez la main si je vous l'ai déjà montré dans le passé, alors. Ouais, voilà, une bonne partie. Alors, je vais demander votre silence. Vous ne participez pas à la prochaine. C'est un petit quiz que je dis pour qui est le rabbin et qui est le pasteur. L'un des deux est un rabbin et l'autre un pasteur. Et je veux voir lesquels de vous ont le feeling pour qui est le juif. Voilà. Alors, si vous pensez le rabbin est à votre gauche, levez la main. Si vous pensez que le pasteur est à votre droite, levez la main. À part ceux qui n'ont pas levé la main, à qui j'ai dit ne pas lever la main, levez la main, si vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, le résumé. Alors ceux qui étaient là la dernière fois, le rabbin c'est lequel ? À gauche, c'est ça. Le rabbin à gauche, le pasteur à droite. C'est un ami pasteur à Zurich qui a à cœur d'annoncer l'évangile, de partager sa foi, lui et sa femme, avec les juifs. Il habite à Zurich dans un quartier avec des juifs. Son église, il y a des juifs autour. Il a voulu rendre visite à une synagogue de ce rabbin qui est un ami à moi. Et voilà que le rabbin était ravi qu'un pasteur veuille venir à une synagogue pour l'office du Shabbat. Et comme Stéphane est un bon chrétien, il est arrivé avant le début de l'office. Ce que j'ai oublié de lui dire, dans la tradition juive, l'office du Shabbat, c'est très long, c'est à peu près 3 heures. Et les ouailles, on a tendance à aller à la synagogue tout au début, sauf quelques-uns, mais vers la fin, pour être là pour la fin et pour le kiddush, la communion fraternelle après. Mais rares sont ceux qui sont là dès le début. Et voilà que le rabbin voit entrer ce monsieur avant le début de l'office, habillé comme lui, et se disant, mais ce rabbin, je le connais pas. Et puis Stéphane s'est présenté, pasteur de telle et telle église à Zurich, Action biblique. Et voilà, les deux ont fait connaissance. Et après l'office, parce que moi je suis entré après 2 heures, j'étais là pour la fin, j'ai vu que les deux hommes, on aurait pu dire des frères du même groupe. Mais priez pour ce rabbin qui est rentré maintenant en Israël, Aaron, vraiment en recherche pour Dieu. Zélé pour la loi, mais voulant connaître Dieu. Je ne sais pas si vous avez connu un chanteur français, Gérard Lenormand, qui l'a connu. Il a composé un chant « Je n'ai jamais rencontré Dieu ». J'ai connu l'amour, je sais qu'il n'y a rien de mieux, mais je n'ai jamais rencontré Dieu. Priez pour ce rabbin qui est en recherche pour Dieu et aussi va dans la direction de la Kabbale, du nouvel âge, l'ésotérisme. Et je viens, il y a un mois, de rentrer de Moscou, où j'ai participé avec l'équipe Juifs pour Jésus à Moscou, pour dire que nous sommes une mission éparpillée dans le monde, avec vraiment à cœur de toucher le peuple juif. Si vous ne recevez pas notre lettre de nouvelles et vous aimeriez la recevoir, venez à la table de librairie. Il y a une carte pour recevoir la lettre. Et pour ceux qui la reçoivent déjà, je vous remercie pour vos prières, pour votre soutien, mais j'aimerais que vous veniez aussi remplir cette carte, parce que les nouvelles lois européennes qui entrent en vigueur, il faut votre permission par écrit pour vous envoyer la littérature. Permission par écrit pour l'envoyer par email, pour vous contacter par SMS, et on est passable dans l'Union européenne, la Suisse n'en fait pas partie encore, mais il se peut que ça va venir, que cette loi oblige tous les Suisses aussi de donner leur permission écrite. Et pour la littérature, j'aimerais mentionner un nouveau livre, « Le Messie au cœur de la Pâque », et un nouveau CD de musique juive messianique, vous trouverez aussi sur la table au fond. Alors je vais clôturer avec la prière, mais surtout pour ceux d'entre vous qui ont des connaissances, des amis juifs, venez me voir après l'office, j'aimerais bien vous rencontrer, vous encourager, prier pour vous. Seigneur, merci que le vœu de ton cœur, c'est pour le salut de toute l'humanité. Merci Seigneur que tu as envoyé Jésus pour mourir pour le péché de chacun de nous. Merci pour ce cri de victoire à la croix, tout est accompli. Et merci Seigneur qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, nous voulons exprimer notre reconnaissance pour la paix en Jésus, pour l'amour que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la communion fraternelle, les amis en Christ. Seigneur, je te prie de bénir l'Église ici, l'Église internationale de Genève. Bénis mes frères et sœurs. Et nous prions aussi, Seigneur, pour le salut de ton peuple Israël. Et nous prions au nom de Yeshua, de Jésus, leur Messie. Amen.